Vous êtes dans le magazine culturel de Fréquence Mistral, la suite avec notre invitée, Magdalena Kubica, hypnothérapeute. D'une hypnothérapeute, Magdalena Kubica est là dans notre studio. Bonjour Magdalena.
Bonjour James, bonjour tout le monde.
Alors, la question favorite lorsque je dresse un portrait, comment ça a commencé cette belle histoire qui te mène à l'hypnothérapie?
Alors, à la base, en 2011, je fais un master en psychologie dans mon pays d'origine, Pologne. Donc déjà à cette période-là, psychologie, ça m'intéressait beaucoup. J'étais passionnée par l'humain, par les relations, par la sociologie des relations humaines. Mais ensuite, la vie a fait que j'ai rencontré l'amour de ma vie, mon mari Pierre, qui est français et qui est venu... en vélo depuis la France en Pologne, avec un copain que je rencontrais pendant mon Erasmus à Toulouse, et qui a frappé dans ma porte. Et ça a changé ma vie à ce moment-là, puisque on a décidé de vivre ensemble en France. Bon, d'abord, on a voyagé un peu, on s'est rencontrés pendant quelques mois, et ensuite, on a décidé de déménager en France, fait que moi, j'ai déménagé en France pour vivre avec lui. Et du coup, je ne suis pas devenue psychologue en Pologne, mais je suis devenue une chargée de recrutement en France. Je trouvais donc ce travail en France. Et j'ai évolué rapidement vers le poste de commercial, de business manager. Et j'ai beaucoup aimé mon travail parce que j'utilisais beaucoup aussi mes qualités, enfin mes compétences de psychologue, mais ce n'était pas aligné pleinement. Donc, au bout de 8 ans, suite à la naissance de mon fils, de mon deuxième enfant, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ce travail pour passer à autre chose. Et suite à cet arrêt, j'ai repris les études en hypnothérapie à Aix-en-Provence, parce que ma mission de vie m'a appelée et j'ai senti cet appel.
Mission de vie. La mission de vie, tu peux nous la définir pour toi, enfin, parce que ça représente une mission de vie.
Alors moi, j'ai cette conviction que effectivement, on a tous une ou plusieurs missions de vie. Donc, ce sont les choses que notre âme souhaite réaliser dans cette vie. Ou plutôt, on peut dire aussi que voilà, c'est quelque chose, c'est une mission en tout cas, c'est quelque chose qui est aligné avec nos valeurs, avec qui nous sommes, avec notre nature profonde. Donc c'est vraiment une mission qui nous anime, qui souvent c'est une passion, c'est quelque chose qui vibre très fort à l'intérieur de nous, tellement fort que ça commence à vouloir se transmettre, en tout cas à l'extérieur. Et donc ça fait que ça devient une mission de vie. Et pour moi, cette mission de vie, aujourd'hui, comment je la vois, c'est accompagner les gens grâce à des outils que j'ai appris et grâce à mon chemin d'évolution personnelle aussi.
Comme c'est bien défini et comme tu nous expliques bien ce parcours, souvent, j'entends, quand on discute des médecines alternatives ou des soins alternatifs, quelque chose qui est de l'ordre de la méfiance. Pas forcément de la méfiance au premier degré, mais de s'interroger. Mais toi qui as fait un parcours universitaire classique, on va dire, pour devenir psychologue clinicienne, C'est oui, cela.
Non, je ne suis pas devenue psychologue clinicienne, c'est un autre parcours. Moi, je me suis arrêtée en master.
D'accord.
Master 2, donc bac plus 5, 5 ans des études en psychologie. Et ensuite, il y a un parcours complémentaire pour devenir psychologue clinicienne que je n'ai pas fait du tout, puisque j'ai décidé de quitter mon pays d'origine et venir en France et donc évoluer différemment et reprendre mes études ensuite en hypnothérapie.
T'as un parcours universitaire de base qui est quand même assez costaud, quoi. Fait un bac, c'est un bac plus 5.
Oui, tout à fait.
Ouais, donc, c'est ce que je voulais dire. Il me semble qu'on peut exercer le métier de psychologue en France avec un bac plus 5, il me semble, je crois.
Oui, c'est un peu plus compliqué.
Pour être psychothérapeute, il y a un long parcours après.
Oui, voilà, il y a plusieurs...
Bon, toujours est-il que tu as une formation de base, tu as été travailler un petit peu pour la World Company, dans des entreprises, on va dire, basiques.
Oui, c'est dans les sociétés des services en informatique. et je travaille avec les ingénieurs, donc en informatique. Comme avec tous les humains, c'est un travail aussi psychologique quelque part. C'est cette partie-là, en tout cas de mon métier, que j'ai adoré.
Cette partie-là de ton métier que tu as adoré, et en même temps, tu nous parlais d'alignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu voulais trouver une autre voie, ou tu as senti que c'était pour toi le moment de partir vers autre chose, et c'est l'hypnose qui t'a attiré.
Voilà, tout à fait. Effectivement, c'était un peu compliqué à le stress, la pression. Parfois, c'était difficile à gérer. Et avec deux enfants en bas âge, encore plus. J'ai commencé donc une hypnothérapie pour moi-même, pour apaiser tout ça, pour gérer mieux le stress. Et ensuite, même pour... J'ai préparé mon accouchement, mon deuxième accouchement, j'ai préparé en hypnose. Et là, je suis tombée amoureuse d'hypnose. C'était vraiment un coup de foudre, encore une fois, dans ma vie, avec l'hypnose qui m'a bouleversée, qui m'a changé la vie, qui m'a beaucoup aidée. Lorsque j'ai arrêté mon travail de business manager commercial, j'ai décidé de m'inscrire à la formation en hypnose ericksonienne pour pouvoir encore mieux connaître cet outil merveilleux et accompagner les gens par la suite.
Hypnose ericksonienne, tu peux nous préciser ce que c'est ?
Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose qu'on pratique dans la thérapie. Tout simplement, c'est un état entre éveil et sommeil, entre les deux. On parle d'état de conscience modifié. Donc, c'est un état qui nous permet surtout d'accéder à notre inconscient. Parce qu'en hypnose, on travaille beaucoup avec l'inconscient. Donc cette partie de nous qui constitue, on parle de 20%, qu'on a constitué de 20% de conscience, de notre conscient, et 80% de notre inconscient. Donc on s'adresse à cette partie un peu plus, plus grande, on va dire, de notre être. Donc c'est très intéressant.
Alors on va faire une petite pause musicale et tu viendras nous en dire un peu plus puisque ça va être c'est le cœur et le corps de ton métier. On va écouter une chanson d'une artiste qui est d'origine polonaise qui s'appelle Nelsin. Elle a écrit un texte qui s'appelle Dialogue du corps à l'âme. On va écouter cette chanson puisqu'on a préparé cette émission et que tout est prévu d'avance.
Évidemment.
Petit clin d'œil, dialogue du corps à l'âme, et on se retrouve juste après, interprété par Nelsin, une grande artiste polonaise qui vit en France, que je connais très bien et que je salue au passage d'ailleurs. Une compatriote et hypnothérapeute, peut-être je te la présenterai.
Super.
Allez, c'est parti, on se fait cette petite pause et on se retrouve juste après.
Vaut mieux qu'un entendu. Arrête de faire. délicate. Ne fais pas ta pute. Oh, mais quelle brutalité. Tu es vraiment vulgaire. J'ai plus envie de te parler. Je suis fâcheuse. Oh, oui, tu me donnes pas envie. Laisse-moi tranquille. J'aurais bien essayé si tu m'avais bien parlé. Oh, tu crois t'en aller. Je te laisse.
D'une hypnothérapeute, Magdalena Kubica. Voilà, j'ai trouvé cette petite chanson Dialogue du corps à l'âme. J'ai trouvé que ça pouvait peut-être avoir un rapport. J'ai senti que ça pouvait avoir un rapport avec ton métier. Je ne sais pas, en tout cas, puis le clin d'œil, c'était le fait que c'était une artiste d'origine polonaise, pour te dire bienvenue partout.
Merci, sur cette planète qui appartient à tout le monde. Très belle chanson, effectivement, qui part de l'âme et de corps et de cette relation qui n'est pas toujours facile et qu'il faut savoir garder en équilibre, surtout, parce que, voilà.
Tu nous en diras plus, parce que tu nous as parlé de ton parcours universitaire, un master, et puis ensuite une expérience dans des entreprises, on va dire, des entreprises traditionnelles, avec des ingénieurs, avec ce qui se fait dans le libéralisme actuel, voilà, des entreprises libres, qui j'espère vont rendre les gens libres. Et puis, à un moment donné, tu nous as bien expliqué que voilà, tu voulais t'aligner, tu es parti vers l'hypnothérapie. Venons vraiment dans ce corps et ce cœur de métier. Ça consiste en quoi, l'hypnothérapie ?
Alors, l'hypnothérapie, c'est une thérapie qui utilise donc l'hypnose, donc cet état de conscience modifié, pour travailler sur plein de sujets. Et ça s'applique vraiment à tous les sujets, que toutes les souffrances, tous les problèmes, toutes les difficultés de la personne qui souhaite, qui est prête et qui souhaite avancer dans sa vie. Et tout simplement, on travaille sur deux niveaux, donc au niveau conscience, où on discute un peu le problème, l'objectif, on définit ensemble l'objectif, et ensuite on passe, on fait la séance d'hypnose, donc on va travailler avec l'inconscience. L'inconscient,
tu nous reprécises, s'il te plaît, ce qu'est l'inconscient.
Donc l'inconscient, c'est cette partie de nous qui occupe 80% de notre fonctionnement, avec 20% de conscient, et qui gère beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes psychologiques, qui engramme aussi tout ce qui est les croyances limitantes, tout ce qui est toutes les peurs, enfin toutes les ressources surtout que nous avons à disposition, mais que parfois on n'accède pas facilement à ces ressources. Donc c'est cette partie magique qui gère énormément de choses et qui est très puissante. Et parfois juste on est un peu coupé avec notre mental de cette partie-là. Donc c'est pour ça, avec l'hypnose, on a cette chance de pouvoir égarer un peu le mental. Le mental reste sur la transat, et nous, on va un peu plus loin, on continue le voyage à la rencontre de cette nature profonde qui sait tellement des choses sur nous, et c'est tellement juste sur tout. Et donc, c'est très intéressant.
Tu parles de peur, de croyances limitantes. On vit dans un monde qui attise la peur et les croyances limitantes. On en a parlé un petit peu. On va pas faire un point géopolitique. Ce n'est pas du tout le sujet de l'émission. Mais quand même, on vit dans un monde avec des choses qui se passent. On parlait notamment des peurs en ce moment. Toi, en tant que thérapeute, tu peux apporter des outils pour aider les gens à gérer leurs émotions, pour pas que ça les rende malades ou ça les rende tout simplement tristes ou prostrés.
Bien sûr, c'est le but dans la thérapie. On commence justement par les émotions. Il y a une partie de psychoéducation aussi dans la thérapie. Donc déjà, on parle de qu'est-ce que c'est les émotions. Est-ce que les émotions ont une mauvaise presse dans notre monde d'aujourd'hui? De tout petit, on nous dit « sois pas triste », « colère, c'est moche »,« peur, il faut être courageux », donc c'est pas la mode. Alors, les émotions, c'est juste la base de notre existence, de notre évolution en tant qu'humain. Ça nous a permis de survivre plusieurs situations difficiles pour l'évolution de l'humanité, je veux dire. Et c'est juste qu'il faut savoir les observer, donc savoir déjà les accueillir, de les dire « ok, quand ça fait un peu bizarre dans le ventre, ça veut dire que c'est la tristesse ». Et après, la question qu'il faut se poser lorsqu'on ressent une émotion, c'est « qu'est-ce que cette émotion vient de me dire ?» Parce que chaque émotion, c'est un message. Par exemple, la tristesse, c'est le message de quelque chose est en train de se terminer, quelque chose va commencer. Donc, je suis prête à renouveau. Et la colère, c'est cette émotion qui va nous informer de nos limites, de notre intégrité psychologique et physiologique. La peur, c'est l'émotion qui de survie. Donc, c'est concrètement, ça nous dit ta vie est potentiellement en danger. Sauf qu'il n'y a que 8% de peurs qui sont réelles et 92% qui sont une production de notre mental. Donc ça, c'est notre sujet. Donc c'est là où on commence à avoir un peu de... Il y a des prises de conscience aussi, donc cette psychoéducation qui sert à ça, cette prise de conscience. Je parle avec mes clients de tout ça, comment ça commence l'émotion, je trouve que c'est où, ça fait mal, ça fait quoi, ça fait chaud, ça fait froid. Et tout simplement, l'émotion qui est accueillie, qui est exprimée, donc qui est comprise, elle va s'alléger, elle va se diviser en deux, en trois, en quatre. Et l'émotion qui est réprimée, par contre, elle va monter en puissance. Parce qu'elle va faire toc, 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 j'ai un message. Et si on va faire en sorte de faire un peu, d'éviter à se connecter avec cette émotion, elle va prendre de plus en plus de place. Et notamment, ça peut créer des souffrances psychologiques et physiologiques importantes.
Tu es donc là dans ta pratique pour aider justement à soulager, tu es là pour apporter du bien-être en fait.
Tout à fait, c'est ça, c'est le but, c'est d'aller rencontrer déjà qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que ça commence toujours par nous, par notre intérieur, par... alors déjà ça commence par il faut savoir se connecter avec nous-mêmes, parce qu'on est très, on est souvent coupé de nos émotions, de notre corps, de nous-mêmes en fait. Donc déjà c'est le travail, premier axe de travail, c'est de revenir à soi et de voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Parce que souvent les gens qui arrivent au cabinet, ils vont me dire voilà, ma mère, mon père, mon conjoint, ils me parlent beaucoup de leur entourage. Ce qui est normal, mais voilà, il y a un moment où voilà, on va changer la perspective. On dit, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe là, chez vous? C'est ça qui nous intéresse en thérapie, surtout. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Donc là, c'est ah bon bah, et on découvre que souvent, on oublie prendre soin de nous. On s'occupe souvent des autres, mais beaucoup moins de nous. Et là, c'est une surprise. Ah là, d'accord, donc moi, qu'est-ce que j'y ressens? En fait, voilà, là, on commence le voyage avec les émotions, avec comment je me sens moi, de quoi je me sens responsable, de quoi je me sens pas responsable. Enfin, voilà, de vraiment comprendre ma situation d'aujourd'hui à travers des émotions, des besoins vitaux, des croyances limitantes, enfin, de toutes ces choses-là qui font partie de notre vie. Donc déjà, on va les voir. Première étape, c'est de faire le bilan, de voir qu'est-ce qui se passe.
Prendre soin de soi, c'est vrai qu'on entend souvent, c'est une expression populaire d'ailleurs. Mm. On dit à un ami ou quelqu'un de proche ou quelqu'un qui nous a touché, ben, prends soin de toi. Mais en fait, c'est un petit peu comme le verbe aimer. C'est à la fois, ça paraît évident et en même temps difficile à définir. Prendre soin de soi, c'est quoi exactement? C'est comment on fait pour prendre soin de soi?
Déjà, s'accorder du temps. En hypnose, c'est comment on fait, c'est comment on s'accorde du temps. C'est le temps que pour moi. Je suis la priorité. À ces moments-là, c'est la personne qui vient qui est prioritaire. On s'occupe de lui, de elle. Et déjà c'est prendre le temps pour soi, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énormément... Ça nous fait avancer énormément parce que ça passe toujours par cette introspection en fait, quelque part. Donc c'est un grand pas déjà de s'accorder du temps, des qualités. Et après, oui, évidemment, on peut confondre à prendre soin de soi. Ça peut être aussi d'aller s'émasser, de se faire du bien. Il y a différentes manières de prendre soin de soi, mais en thérapie, c'est de se connecter à soi, vraiment à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Donc parfois, voilà, c'est pas le massage d'autres plaisirs, ça peut être un peu, ça distrait un peu, ça fait du bien, mais ça distrait. Là, on va vraiment aller regarder droit dans les yeux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans se raconter des histoires.
Faut être courageux alors.
Oui.
Courageux.
Oui, c'est vrai qu'il faut être courageux. Je vais pas dire le contraire. Après, c'est mon travail aussi à moi de créer ces cadres sécurisants, bienveillant et motivant quelque part, parce qu'il y a toujours dans le psychoéducation, on va parler aussi des bénéfices de ce travail. Pourquoi on fait ce travail-là? C'est pas juste j'ai fait le travail pour me maltraiter ou pour me faire du mal, mais c'est vraiment pourquoi j'ai fait ce travail. C'est pour que je puisse aller mieux, et même si on parle de la mission de vie, mais pour que je puisse enfin... dire oui à ma mission de vie. Et donc là, on parle de la magie de la vie, parce qu'on parle des choses de vraiment... lorsqu'on pose les actions alignées, la magie opère. Et voilà, il y a la joie de vivre, il y a plein de... Il y a le bonheur, l'apaisement, la sérénité, l'harmonie, l'alignement, enfin, toutes ces choses-là qui commencent à être très présents, très présente dans la vie. Donc c'est ça qu'on cherche à travers de la thérapie. Donc c'est motivant. Donc moi, ce que j'ai fait effectivement dans mes séances, je demande à la personne, je fais une petite séance d'hypnose sur la chaise ou Je dis, voilà, maintenant, on va voir. Si je te donne la baguette magique, et si tout était possible, mais vraiment, il n'y a pas de freins, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de problèmes d'argent, il n'y a pas de contexte géopolitique, il n'y a rien, il y a juste la baguette magique. Et va chercher, au fond de toi, qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette vie, avec ces cadeaux d'incarnation qui est extraordinaire. Si on comprend comment l'utiliser pour rayonner, pour briller, pour réaliser nos rêves. Et là, souvent, on accède à des images, à des vibrations, à des ressentis qui sont très, très forts. Et la personne, vraiment, on dit ouais, « ça, oui, ah oui, j'ai vu ça, et ça, et ça, et c'est génial !» Donc, ça y est, là, on a quelque chose de très concret, cette vibration de joie. Et après, ça c'est notre point de GPS. Donc, on le plante, on dit, voilà, là, c'est notre direction. Et maintenant, on va voir comment on peut y aller. Et donc, cette partie un peu plus difficile de la thérapie, elle se passe bien parce qu'il y a cet objectif très concret de réaliser quelque chose de grand dans notre vie, d'avoir du sens à notre vie, donner du sens à notre vie. Et là, c'est motivant, c'est inspirant, ça donne envie, et puis on y va.
D'aller par exemple vers la source claire. C'était juste pour amener une petite illustration musicale. Dans quel état on peut se sentir après une séance d'hypnothérapie ?
Ça dépend de la personne, mais très souvent, on me dit qu'il y a cet état de relaxation, de relâchement, de détente, de la légèreté, voilà. Vraiment, c'est plutôt agréable. Après, pendant la séance, il peut se passer des choses. Parfois, il y a des moments forts, parce qu'on rencontre parfois de gens qu'on a aimés, qui sont partis, et on leur parle dans l'hypnose. Enfin, il y a des choses qui se passent. C'est parfois assez fort, mais ça libère, ça soulage. On sent qu'on avance, on sent que... qu'on libère des choses et qu'on fait de la place à ces projets, à cette mission de vie, à nos ressources, à la joie, à la sérénité. Donc voilà, on vide et on fait la place pour de belles choses. Donc ça fait du bien.
Ça fait du bien, comme cette musique qui s'appelle La Source Claire. C'est une façon radiophonique d'amener cette petite musique pour illustrer un petit peu le bien-être. On va écouter juste 10 secondes, et puis on va revenir sur le lieu où tu pratiques l'hypnose, parce que c'est important de pouvoir te contacter, et j'espère qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui viendront te voir pour justement trouver peut-être un chemin possible pour avancer le pas et aller vers leur mission de vie. Oser. Alors, où peut-on te contacter ? Comment peut-on te contacter ? Ça se passe où et quand et comment tu nous l'as dit ? On a bien compris, c'était très clair et puis ça donne envie d'y aller, quoi.
Super. Alors, deux cabinets, je partage mon activité entre les deux cabinets. Un cabinet à Marseille, 15e arrondissement, Saint-Antoine. Et deuxième, c'est à Aix-en-Provence, Val-Saint-André. On peut me trouver donc sur Doctolib, où toutes les adresses sont données. On peut prendre les rendez-vous. Donc c'est Magdalena Kubica, l'hypnothérapeute. Sur Doctolib, je suis la seule Magdalena Kubica, hypnothérapeute. Donc on me trouve facilement. Et on peut choisir le créneau, l'adresse. Je me déplace aussi à domicile, parfois, si nécessaire, et je fais des séances en visio, par Internet, sur Zoom ou sur une autre application si nécessaire. On peut me trouver aussi sur Facebook, j'ai un compte Facebook, pareil, Magdalena Kubica, K-U-B-I-C-A. Et j'ai un compte Google Business où on peut voir, il y a quelques avis de mes clients qui m'ont laissé des avis suite à des séances que j'effectuais. Donc voilà, ce sera avec plaisir.
Ce sera avec un grand plaisir, évidemment, que nous allons mettre tous tes liens sur le podcast qui va jaillir, j'allais dire, de cette entrevue. Magdalena Kubica, hypnothérapeute. Donc, vous avez compris que ça se passait sur place à Aix-en-Provence ou à Marseille. Et aussi, elle se déplace. Tu te déplaces pour venir vers, l'aller vers, c'est important aussi. Et puis aussi, par les moyens très très modernes, notamment tout ce qui concerne la visio.
Oui, tout à fait. C'est important.
Tu peux travailler. Et ça ne fait pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence possible, le fait de faire ça à distance avec un écran.
Non, ça se passe très bien. À distance, ça se passe vraiment très bien. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires de connexion. Et il n'y a pas de différence. Je pense que c'est une croyance peut-être limitante qu'on est nombreux à avoir, que le contact en présentiel... En tout cas, moi, pareil, je préfère en présentiel. Je suis quelqu'un de très, des relations de proximité. Mais vraiment, en visio, on arrive à créer la même ambiance, le même climat. Et parfois, c'est plus pratique aussi, d'un point de vue logistique. Les gens qui travaillent, le déplacement, ça prend du temps. Donc,
pollue la terre.
Ça pollue la terre, donc il y a des avantages. Donc, il faut voir les choses. Il faut toujours aller voir, chercher le côté positif des choses. Après, ceux qui peuvent se déplacer en cabinet, c'est avec un grand plaisir. Et ceux qui préfèrent en visio, c'est pareil, c'est possible, ça marche aussi bien. Il n'y a aucun souci. Et puis, c'est moderne. Cette technique, cette technologie, ça nous apporte beaucoup de... des solutions pragmatiques à notre bien-être. Donc il faut s'en servir aussi.
Alors de manière très pragmatique, vous pourrez aller sur le site de fréquencemistral.com pour retrouver tous les liens qui vous mèneront. Elle viendra vers vous, Magdalena Kubica, hypnothérapeute. Je vous le rappelle, elle est en chair et en os. Vraiment, là, on n'est pas en visio, on parle vraiment en direct à la radio et c'est très très agréable. Vous pourrez retrouver tous les liens et puis réécouter et peut-être partager cette entrevue avec vos amis. Tout autour de nous, en ce moment, il y a des peurs. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'on a eu une conversation juste avant cette entrevue. Actuellement, il y a un pays qui est en guerre. Il y a l'Europe qui est sur le pied de guerre aussi parce que, effectivement, on ne peut pas se voiler la face. Il faut regarder les choses en face. Il y a... quelqu'un qui est très menaçant et qui fait peur à tout le monde. Et n'hésitez pas peut-être à en parler. Et quelquefois, on ricane de ses propres peurs pour essayer de se protéger. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à la situation qui se passe concrètement en Ukraine. Et tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des patients à toi qui te témoignaient de cette peur, ou c'est toi qui as constaté qu'il y avait vraiment...
Oui, c'est dans les conversations avec mon entourage, effectivement, où il y a... ça crée de la peur, ça crée des émotions, et c'est normal, c'est la vie, ce sont des difficultés de la vie. Cette fois-ci, c'est menaçant, mais donc c'est normal de ressentir les émotions, et au contraire, il faut les accueillir, il ne faut pas les réprimer, il faut les accueillir évidemment, et puis faire ce travail de compréhension de quoi ça me parle, à propos de moi. Donc quels sont mes peurs, où est-ce que j'en suis avec mes peurs, avec mes angoisses, avec ma situation, parce que c'est une opportunité, chaque initiation, chaque difficulté, c'est une opportunité d'aller plus loin, d'aller chercher à l'intérieur de nous, de se rencontrer, de se connaître encore mieux, Et surtout, il y a des solutions. Une fois on constate, on accueille l'émotion, déjà on se sent beaucoup plus léger. Et ensuite, il y a des perspectives, il y a la possibilité des changements de perspective. Ça veut dire qu'on peut même aller chercher le côté positif, même si ça paraît bizarre de le dire dans un contexte aussi difficile. Mais si on regarde, par exemple, la solidarité des gens autour de ces contextes, c'est juste formidable. Et on peut vraiment retrouver, je pense, des ressources dans cette situation aussi, de vivre cette situation à travers de cette solidarité. On voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Et moi, je pense que c'est aussi positif, dans le sens qu'on peut, on a la même direction. Et peut-être qu'on peut les vivre aussi de cette manière-là, en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a la possible, enfin, il y a ce changement de perspective qui est possible, qu'on peut voir les choses de manière différente et que le cerveau adore de sortir des sentiers battus et d'aller chercher juste pour voir comment on peut voir les choses et qu'est-ce qu'on peut faire surtout de manière très concrète avec ce qui se passe. Donc peut-être qu'on peut passer à l'action, peut-être qu'on peut se dire aussi j'avance dans ma vie. Je fais ce travail sur moi, justement parce que le monde a besoin de gens qui sont heureux, alignés, qui vibrent haut, pour créer un nouveau monde, pour accueillir tous ces gens qui quittent leur pays, pour justement créer un monde super, de bienveillance, d'amour, de respect, de considération, de liberté. Et c'est aussi important de penser à ça, pas que à qu'est-ce qu'on perd, mais aussi qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on peut surtout faire chacun en prenant la responsabilité de notre vie et en poussant notre avenir, en créant notre avenir ensemble, chacun pour soi, mais ensemble aussi.
Eh bien, ce sera ainsi qu'on conclura cette entrevue. Magdalena Kubica, merci infiniment pour être venue nous éclairer sur tes pratiques professionnelles et aussi d'avoir pu nous dire tout un tas de choses rassurantes, de savoir qu'il y a des gens qui se mettent au service de la lumière et on en a bien besoin. Parce que pour qu'on puisse distinguer le monde, il faut de l'ombre et de la lumière, mais que tout ça soit bien équilibré, un petit peu comme le yin et le yang, je sais pas, moi je vois ça comme ça, hein. Un équilibre entre les deux.
Oui, voilà, il faut de l'équilibre, tout à fait, je suis d'accord.
Alors, pour terminer, on va se quitter en musique, toujours avec Nelson, qui a écrit un album qui s'appelle Niepko. Niepko, en polonais, ça veut dire... C'est un jeu qui consiste à creuser un trou dans la terre, d'y mettre des petits objets précieux, de mettre une plaque de verre et de recouvrir de terre et de temps en temps écarter la terre pour se rassurer sur son intérieur lumineux et profond. Et on va se quitter sur cette musique de Nelson qui, je voulais te l'offrir, parce qu'elle est d'origine polonaise et que c'est important de retourner quelquefois aux sources. Et là, c'est aux sources de l'enfant, de l'enfance, pardon, peut-être de notre enfant intérieur. En tout cas, vous retrouverez tous les liens concernant Magdalena Kubica sur le site de fréquencemistral.com pour que vous puissiez la contacter ou qu'elle vienne vers vous. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve juste après Niepko de Nelson. C'est parti.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
À très bientôt.
À bientôt.
Niepko, niepko, niepko.
puszczę moim uchu. Niebko, 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 niebko. Dodaj szczyptę pyłu i czekaj w ukryciu. Przeniknie do tego świata. Dodaj szczyptę pył i czekaj w ukryciu. Sekretnie, cenny w ukryciu wibruje.